Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la Grande Tchatch, le rendez-vous politique du journal Le Ravi, en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission, Alain Damasio, écrivain de science-fiction, une matière qui n'est pas étrangère aux auditeurs de la Grande Tchatch, puisque nous recevons beaucoup de femmes et d'hommes politiques dans les projets où la pensée relève souvent de la science-fiction. Bonjour Alain Damasio.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le nom de votre dernier ouvrage, Les Furtifs, aux éditions La Volte. On en parlera bien entendu. Mais avant de parler de votre livre, de la région qui sert de lieu d'action pour vos personnages, une tradition Alain Damasio dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Pour faire le portrait d'un oiseau, il faut une belle plume et ne pas se décourager. Pour faire le portrait d'un élu, il faut une bonne hache et débiter sa langue de bois. Pour faire le portrait d'un Damasio, il faut savoir lire entre les lignes et ses traces en acceptant de s'y perdre. Des études scientifiques vous ont conduit dans les rangs de l'ESSEC, prestigieuse école de commerce où se pressent les enfants de bonne famille. Mais fils d'un carrossier et d'une prof d'anglais, vous n'en êtes pas issu. À l'opposé de ce qu'on vous a enseigné, vous entrez en littérature pour des motivations politiques, afin de desserrer l'étau de nos sociétés marchandes du contrôle. Écrivain radicalement engagé, vos livres sont pourtant des manifestes poétiques jouant sans entrave avec les mots et la typographie. Ils cherchent moins à convaincre qu'à semer des possibles et, qui sait, des alternatives. En seulement 3 romans, publiés en 20 ans, La Zone du Dehors, La Horde du Contrevent et Les Furtifs, vous êtes devenu l'un des auteurs français de science-fiction les plus populaires, plébiscités par les lecteurs et la critique. Il documente et questionne les dérives technologiques de l'économie numérique et de nos sociétés de surveillance. Vous refusez d'ailleurs, à titre personnel, d'utiliser un téléphone portable. Mais loin d'être technophobe, vous avez cofondé une entreprise pour créer des jeux vidéo et scénariser plusieurs projets. Pour écrire, au fil des 15 dernières années, Les Furtifs, vous vous êtes isolé selon votre habitude, notamment sur des îles, la Corse, Porquerolles. Mais vous ne craignez pas de vous exposer en public lors, par exemple, de concerts lecture avec Yann Péchin, guitariste et compositeur de la BO du roman, ou d'un véritable véritable marathon médiatique depuis la sortie du livre en avril. Adepte des marges, partisan des zadistes et des gilets jaunes, La Horde du Contrevent est pourtant un best-seller et Les Furtifs, imposant pavé de 700 pages, caracole en tête des ventes. Last but not least, toutes vos biographies vous présentent comme lyonnais. Ce n'est pas faux, vous êtes né à Lyon, mais vous vivez discrètement depuis plus de 10 ans à Marseille. Et l'action des Furtifs se déroule dans notre région en 2040, à mille lieues des clichés pagnolesques qui lui collent à la peau. Toute la Provence, des îles de Porquerolles au delta du Rhône, des replis du Verdon à la skyline marseillaise, sans oublier Orange, privatisé dans le roman par la multinationale du même nom. Pour faire le portrait d'un Damasio, grand maître S.R. de la fuite, le plus simple est d'admettre qu'il restera inachevé.
Alain Damasio, une réaction à ce portrait à la sauce Ravi, bien sûr.
Eh ben, c'est magnifique. C'est peut-être le meilleur portrait que j'ai eu de tout le marathon, de la presse. Comme quoi,
ça, c'est sympa.
Ouais. Non, c'est très juste, c'est très bien. Je trouve que ça décrit parfaitement le chemin. Voilà.
Alors Alain Damasio, auteur de science-fiction, c'est comme ça que je vous ai présenté. Science-fiction, anticipation, la différence pour les auditeurs ?
L'anticipation, c'est simplement un sous-genre de la science-fiction. C'est le genre qui essaye de prévoir l'avenir, mais t'as énormément d'autres sous-genres. Le Planète Opéra, l'Uchronie, les décalages de niveau de réalité, la robotique. Ça peut se passer dans le présent, la science-fiction, ça peut se passer dans le passé. C'est pas forcément une anticipation du futur, donc... Mais ça reste, l'anticipation, une des choses qui type ou caractérise vraiment le champ.
Alors,
pour les gens,
vous, Alain Damasio, la politique, c'est un peu la matrice de votre démarche, de votre écriture. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, je suis entré en écriture pour des raisons politiques, pour des raisons vraiment de cul-de-sac politique personnel dans lequel j'étais. J'étais à 22 ans, en sortant de cette grande école de commerce que je me suis retrouvé à faire et dans lesquels je me suis pris le choc que Bourdieu décrit très bien comme le choc de la reproduction sociale, c'est-à-dire de se retrouver avec des gens qui dont les parents étaient parfaitement adéquats à ce que les enfants faisaient, c'est-à-dire des petits capitalistes en herbe qui recopiaient ce que leurs parents avaient fait et qui avaient leur culture, qui était déjà parfaitement insérée, qui était exactement dans l'axe de ce qu'on attendait d'eux. Moi, je venais vraiment d'ailleurs, mon père était carrossier, effectivement, et... j'ai pris ce choc, je me sentais extrêmement mal, je comprenais pas qu'on me d'avoir fait toutes ces études, d'avoir fait cette classe prépa, d'avoir surmonté toutes ces exigences intellectuelles pour qu'on m'apprenne le comportement du consommateur et la comptabilité et la manipulation des ressources humaines juste pour maximiser le profit dans les entreprises, quoi. Voilà, que toute cette intelligence soit sélectionnée et orpaillée pour arriver à ça, je trouvais que c'était particulièrement pervers, sinon obscène, quoi. Je trouve que si on éduque des générations à essayer de réfléchir, de philosopher, de comprendre, de parler très bien d'autres langues, c'est pour ouvrir ce monde, voilà. C'est pour le faire progresser, c'est pas pour l'enferrer et l'enfermer. Donc ça a été ce mal-être total des trois ans que j'arrivais pas à libérer dans de la militance, que j'arrivais pas à libérer sur des ONG ou des associations qui me plaisaient suffisamment. J'étais passé par Amnesty, mais ça me plaisait pas. Je faisais que des lettres aux prisonniers. Je trouvais que c'était pas du tout assez concret. J'étais au Parti Humaniste, voilà. Et j'avais pas de culture politique liée à mes parents, parce que mes parents étaient pas politisés. Et du coup, un peu comme un ado qui est enfermé dans son truc, je me suis décidé à faire un livre pour sortir tout ça, quoi. Et du coup, je peux dire que ouais, mon entrée en écriture est complètement liée à des motifs politiques. Ouais.
Michel ?
Alors, on n'a qu'une heure, on aurait pu passer les étapes qui nous ont amené au furtif, mais on va aller au furtif directement. Et peut-être pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il y a 100 000 personnes, un peu plus déjà, qui ont acheté le livre. Ça décrit une société, une dystopie, une société que vous nommez une société de traces. Comment faire la synthèse, vous ferez mieux que moi, du livre ?
Bah, enfin, c'est un livre, honnêtement, qui est très dur à... qui est dur à synthétiser au sens où il fonctionne vraiment sur un multicouche. Donc il y a une façon très facile de le raconter, c'est de dire voilà, c'est un couple en 2040 en France, dans des villes privatisées, qui a perdu sa fille, ou en tout cas dont la fille disparaît extrêmement bizarrement, et le père est convaincu qu'elle est partie avec ces êtres étranges qui s'appellent les furtifs, et il va chasser les furtifs, il va les poursuivre pour essayer de retrouver sa fille. Donc la ligne narrative est simple, et je trouve que c'est important d'avoir des lignes narratives simples. D'autant plus si tu vas essayer de complexifier à côté l'univers. Mais c'est une charge dystopique, oui, forte, contre l'ultralibéralisme, contre ce qui n'a pas encore été totalement marchandisé par ce libéralisme-là, notamment l'éducation nationale, qui là est complètement privatisée en 2040, notamment l'espace encore partagé et commun des villes, qui là est carrément aussi privatisé et monétisé par des forfaits différents.
C'est-à-dire que concrètement, par exemple, il faut avoir un forfait. Si on a un forfait standard, il y a des rues qui sont interdites.
Voilà, si tu as un forfait standard, en gros, tu as accès à 50% de la ville. Donc, ça veut dire que tu as plein d'avenues qui te sont interdites, de rues, de squares, de parcs.
C'est ce qui se passe concrètement déjà à Marseille, avec la
Marseille,
privatisation de quartier. Hein.
Ça a été la grande inspiratrice pour moi de cette idée-là, parce que en vivant en plus dans le 8e, tu as des îlots urbains totalement fermés, mais des îlots de 3-4 rues entrecroisées que tu peux pas traverser à pied, que tu peux pas traverser à vélo, qui sont soustraits à l'usage commun. Donc c'est déjà des choses opérantes, évidemment à petite échelle, mais là je généralise l'idée et je dis bah oui, vous payez pas votre forfait privilège, donc on va pas vous donner accès au beau parc. Par contre, si vous êtes standard, vous tapez tous les embouteillages, toutes les rues qui sont saturées, de tous les squares où il y a des tonnes d'enfants comme vous qui n'ont pas le bon forfait. Mais c'est un peu le rêve actuel de beaucoup de gens.
Et c'est un monde où la technique, la technologie est omniprésente. Le digital libéralisme.
Ouais, donc ça, c'est pour moi, c'est très important. C'était de dire, on va encore avancer dans cette espèce d'hyper-technologie quotidienne, dans ce que j'appelle le techno-cocon, quoi. C'est-à-dire cette espèce de cocon qui nous cajole, qui nous protège, qui nous fait du bien, dans lequel on a accès au monde entier, mais d'une façon filtrée, d'une façon particulièrement bien construite et fluidifiée. Donc au nom de ce confort, au nom de ces facilités, au nom de ce monde de réseaux sociaux dans lequel on ne côtoie que nos proches, nos amis et ceux qui pensent comme nous. Voilà, dans ce cadre-là, je considérais qu'il y aurait une ergonomie encore plus grande, c'est-à-dire qu'on emporterait des bagues plutôt que des smartphones, qu'on aurait des oreillines plutôt que des casques, et que finalement, c'est encore plus fluide, encore plus ergonomique, encore plus facile, si vous acceptez qu'évidemment, toutes vos données en permanence sont collectées et utilisées, moi je dis contre nous, mais les gens trouvent pour nous, puisqu'on leur personnalise les services et les publicités dont ils ont besoin. Donc ils sont très contents qu'on s'occupe d'eux et qu'on s'adresse à eux.
Dans les furtifs, il est fortement conseillé pour vivre dans cette société-là d'avoir une bague, d'être bagué. Il n'est pas interdit de ne pas avoir de bague, mais c'est l'enfer.
Enfin, mais c'est l'enfer, mais c'est comme aujourd'hui. Enfin, moi je l'expérimente tous les jours. Bon, j'ai pas de smartphone, donc je peux vous dire que ça vous empêche de prendre des trottinettes, ça vous empêche de. Vous êtes obligé d'imprimer vos billets.
Alain Damasio sur une trottinette.
Ouais, ça serait bien ça. ça vous empêche énormément de choses, ça rend difficile de plus en plus énormément de choses. Bientôt on payera avec les portables, donc quand t'auras pas de portable, bah comment tu vas payer? Tu vas être là avec tes billets, tu passeras pour un extraterrestre, quoi. Donc c'est déjà ce qu'on vit pour moi. Je me souviens le moment où ils ont commencé à supprimer toutes les cabines téléphoniques, qui était moi mon vecteur. Bah, j'ai dû accepter que je ne peux plus prévenir les gens quand je suis en retard, je peux plus être prévenu quand je suis en retard. Il y a plein de choses que je peux plus faire. Donc c'est vraiment un choix de liberté, mais qui pose énormément de contraintes aussi, quoi. Et c'est ça qui est particulier, je trouve, dans ce monde-là, c'est que si vous voulez rester libre, c'est un combat, quoi. C'est un effort. Ce qui est facile, c'est d'avoir le smartphone, c'est d'avoir toutes les applis, c'est d'accepter que toutes vos données soient utilisées, c'est de pas crypter vos navigations. Moi, je scripte tout et en plus, j'élimine les historiques sans arrêt, ce qui fait que je suis obligé de retaper tous les formulaires. Je suis obligé de me réidentifier, je suis obligé de revalider les conditions Google à chaque fois. C'est ultra chiant, c'est ultra pénible, mais c'est la condition pour pas être tracé, quoi. Ça devrait être standard, et en fait, maintenant, la liberté est vraiment en option, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire l'effort pour...
Alain Damasio, vos rapports à la technologie, c'est quoi? C'est une méfiance absolue ou c'est une critique raisonnable, distanciée?
Ouais, moi je crois que je suis vraiment comme tout le monde là-dessus, c'est une sorte de fascination-répulsion, c'est-à-dire à la fois fascination et jubilation de l'accès extraordinaire que ça donne à la culture, parce que c'est quand même ça le plus beau, quoi. C'est que ça donne accès à quasiment tous les films possibles, si vous piratez un petit peu, etc. Ça donne accès à toutes les musiques du monde, ça donne accès à tous les livres, ça donne accès à toutes les informations. Donc d'un point de vue de la capacité à se cultiver, de rester autodidacte, etc., c'est juste splendide. On a les bibliothèques du monde à portée, quoi. Voilà. Maintenant, d'un point de vue auto-aliénation, auto-addiction, capacité à designer la dépendance des utilisateurs, on atteint aussi des sommets. Mais c'est un nouveau type de pouvoir, c'est-à-dire que c'est un pouvoir extrêmement subtil, très sournois, très bien construit, qui joue sur les facilités humaines, qui joue sur cette loi du moindre effort qu'on a tous en nous, sur cette volonté de fluidité qu'on a tous en nous, et qui fait que très vite, on se fait avaler. Et c'est très difficile de contrer les mécanismes addictifs que génèrent tous ces outils. On le voit. Alors moi j'ai deux filles, mais tu vois l'extraordinaire exploit que ça constitue de leur apprendre un art de vivre avec cette technologie, quoi. Il y a un art de vivre qui soit un peu intelligent, qui soit un peu distancié. Donc moi je me vis comme technocritique, tout simplement, c'est-à-dire, mais vraiment au sens critique, au sens profond, c'est-à-dire pas critique négative, mais analyse vigilante et j'espère approfondie du phénomène, parce que ce phénomène il est quotidien, il nous traverse tous. On y est tous confrontés. Je connais pas une personne autour de moi qui a pas des problèmes sur l'accumulation des mails, qui a pas des problèmes d'impossibilité à traiter les messages, les SMS, qui galère pas sur l'anonymisation. Enfin, tu parles de ça, moi je parle de ça en public, je vois tous les gamins, ils sont tous les yeux ouverts parce que, bah, c'est juste ce qu'on affronte aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est
Michel.
Parmi toutes les idées, il y en a beaucoup, hein, on n'est pas en train d'épuiser les furtifs en quelques mots. Il y a cette idée de la réule, cette espèce de réalité augmentée. Et vous dites, ouais, que là, c'est une expérience de privatisation de la réalité. Là aussi, on franchit un cap, mais assez présent.
Ouais, ça c'est vraiment, c'est pareil. Bon, quand tu fais de la dystopie, c'est-à-dire que tu essayes vraiment d'extrapoler des tendances que tu sens particulièrement sournois, justement, un peu caché, qui avance un peu masqué, et qui vont complètement altérer, à mon sens, la façon dont on vit. Typiquement, il y a deux choses dans les furtifs sur lesquelles je me suis concentré. J'aurais pu en faire des tonnes, hein, parce qu'il y a tellement de prototypes de trucs atroces qui sont mis en place que tu peux vraiment imaginer plein de choses. Mais je voulais vraiment me concentrer sur deux choses. Ce que j'appelle le « moi » dans le bouquin, c'est-à-dire « my own assistant », c'est l'assistant personnel sous forme d'intelligence artificielle ou l'intelligence artificielle personnalisée que en train de construire tous les GAFAM, hein. Vraiment, il y a Google, Apple, Facebook, Amazon, tous ont leur aujourd'hui chatbot, c'est-à-dire robot de conversation qui s'est mis en place, qui est pour l'instant très très bourrin, qui fonctionne assez mal. Mais le rêve, c'est qu'on élimine toutes les interfaces et qu'on arrive à une seule interface qui serait cette IA personnalisée, qui collecterait la totalité de nos traces, avec lesquelles on aurait un rapport très intime, très familier, très quotidien, et avec lequel on parlerait en langage naturel, qui est la première interface humaine. Donc ça, s'ils arrivent à nous implémenter ça, mais ça va complètement modifier le rapport qu'on aura aux autres, parce que personne n'aura la même connaissance de nous que notre IA personnalisée. Donc ça sera très difficile de tisser même un rapport de couple en disant mais non, mais tu sais bien que moi je prends des céleris en entrée et j'ai horreur de l'houmous, tu vois. Et ben oui, l'IA le sait, mais ta copine non, quoi. Tu demanderas en fait à ta copine d'être aussi parfaitement adaptée à toi que l'est ton IA. Donc ça va être très compliqué à gérer, et puis ça va surtout fermer encore plus le rapport au monde et à l'altérité qu'on a aujourd'hui. Donc il y a ça, et puis il y a la réalité ultime qui pour moi est le dernier stade, c'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de la réalité virtuelle, puis augmentée, puis parallèle, etc., tu dis l'ultime, ça serait de réussir dans la réalité qu'on a tous, qu'on partage tous, dans ce réel qu'on partage tous, à pouvoir insérer un doudou, ton père mort, des éléments que tu as envie de voir avec un réalisme parfait, et de dire ma réalité, elle est à moi, elle est customisée, c'est la mienne. Je le partage pas avec d'autres. Vous voyez pas ce que moi je vois. Tu vois, là, je serais dans le studio, par exemple. Bah, je mettrais mon doudou au milieu qui serait en train de danser pour rigoler. Ou je mettrais une bimbo parce que ça m'éclate. Ou je mettrais Messi qui est en train de marquer son dernier but. Et pendant ce temps, on se parlerait, mais vous sauriez même pas ce que je suis en train de regarder. Alors, vous voulez me dire, c'est déjà le cas quand on voit les smartphones dans les trams. Mais là, je trouve que c'est l'étape ultime. C'est-à-dire de dire si on arrive à privatiser le réel, si on arrive à le rendre tellement individuel. Ben on se coupe du dernier élément de partage commun qu'on avait, donc je pense que c'est un rêve du capitalisme aussi d'arriver à ça.
Alors il y a cette histoire de naming aussi.
Ah ouais, ça, Orange Vélodrome, ouais.
Alors précisément, l'action se passe à Orange, la ville Orange, privatisée et renommée par Orange. Pourquoi ce choix? C'était juste pour le jeu de mots?
Ouais, parce que je trouvais ça extraordinaire. En fait, j'ai une drôle d'histoire avec Orange, c'est que à l'époque où je commence à écrire mon premier bouquin, La Zone du Dehors, et c'était encore Itinéris à l'époque. Et tout d'un coup, il y a un gars, je sais plus quel PDG, décide que non, il y avait 95 ou 98% de reconnaissance et de notoriété du terme Itinéris, donc c'était pas un problème de marque, machin. Mais il dit quand même, avec Orange, j'ai un nom international, j'ai une couleur, c'est extraordinaire. Donc ils ont racheté à l'époque, je sais plus, c'était 6 milliards de... Enfin, c'était énorme le rachat de la marque. Et tu te dis, mais c'est des malades quand même mentaux. Mais en fait, évidemment, c'est pas complètement des malades parce que tu te rends compte que ça préempte et la couleur et le fruit et que ça le préempte au niveau vraiment international. Et moi qui adore et le fruit et la couleur, c'est ma couleur préférée, l'orange, ça m'agaçait absolument, tu vois. C'était un truc, j'avais l'impression qu'on me piquait le truc. C'est comme jouer à les sacs Hermès, tu vois. Et quand tu vois ce qu'est Hermès, le messager, ce dieu incroyable, virevoltant et tout, et tu vois, tu t'as permis dans un moteur de recherche, boum, on te donne des sacs. Et c'est assez, voilà, c'est des trucs assez insupportables pour moi. Et cette préemption du langage, cette préemption de la mythologie aussi, qui est une récupération, une énième récupération du capital. Bah, je voulais montrer que ça allait être la même chose et qu'ils sont tellement mesquins, quoi, si tu veux, que ils se fatiguent même pas à acheter une marque, ils reprennent une ville dans laquelle ils font l'économie de la marque. Donc, je trouvais ça savoureux. C'est un peu style Ravi, ça, de faire ce genre de...
Oui, on pourrait faire des blagues. Comme ça. Ouais. Cannes, c'est la Warner, c'est ça, c'est baptisé Warner.
Ouais, alors je l'ai changé, c'est rigolo. Dans la nouvelle version, j'ai dit non, mais ça va pas, en fait. Parce qu'on va plus vers des Netflix, on va plus vers des Apple TV, etc. C'est plus des chaînes comme ça qui vont... Donc Warner, c'était un peu has-been, donc j'ai modifié, je sais plus comment, j'ai fait un jeu de mots avec Flix, mais je sais plus. Mais oui, c'était la Warner, mais Lyon, c'était Nestlé, parce que c'est la capitale de la gastronomie, donc c'est la bouffe, donc c'est Nestlé-Lyon. Et puis voilà, Lille, c'est Auchan, parce que c'est la plus grosse boîte de Lille. Donc tu peux imaginer que les multinationales implantées à tel ou tel endroit...
Mais Marseille
Et Marseille, ouais, non, ils ont un mélange assez classique entre Orange et Vinci, quoi. Donc ça reste ça, ben, si, quand même super présent ici. Quoi.
Alain Damasio, on reste un peu dans les territoires. Les territoires de Furtif, c'est la Provence. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte sur ces territoires?
Ah, je sais pas ce que ça raconte sur ces territoires. En fait, moi, je c'est mon biotope, ça c'est sûr. C'est-à-dire que c'est là que... Moi, je suis né à Lyon, j'ai beaucoup habité Vercors, puis Corse, puis Marseille. C'est là où j'évolue, c'est là où je randonne, c'est là où je m'isole surtout. C'est là, j'ai pas mal été dans le Verdon aussi à ce moment, sur ce livre. Donc c'est les lieux en fait où je me sens bien moi et où je trouve cette espèce d'énergie qui me permet d'écrire dans immersion totale, parce que quand j'écris je suis tout seul et j'ai besoin d'être tout seul. Donc c'est plus ça. Après, il y a une utilisation spécifique de Marseille parce que effectivement tout le projet Euro-Méditerranée que j'appelle Euro-Méditerranée dans le bouquin. Tout le projet de Skyline qui est une absolue aberration urbanistique qui est pourtant dans les clous, dans les cartons, il nous prévoit quand même 10 tours à Marseille, on en a déjà 2, et que la deuxième est une horreur tellement dingue que je la fais écrouler dans le livre, parce que c'est espèce de bleu blanc rouge, enfin d'orange.
C'est la tour de Jean Nouvel. Hein.
Ouais, je sais, mais Nouvel, ça lui est arrivé de faire des très belles choses.
Qui lui-même se revendique comme faisant beaucoup d'anticipation, travaillant sur le futur.
Alors là, c'est non seulement c'est ringard d'un point de vue esthétique, mais en plus c'est absolument pas corrélé à l'environnement urbain proche. C'est autant, tu vois, tu peux critiquer la tour de Zaha Hadid, etc., mais il y a une forme de cohérence, je trouve, avec le port. Autant celle-là, c'est juste n'importe quoi avec les bruits de soleil blanc. C'est pour moi, c'est une boucherie. Donc, sachant qu'ils veulent continuer, je me suis permis de d'écrouler la tour quand même dans le bouquin, parce que ça fait du bien.
Michel,
un mot sur Porquerolles, parce que Porquerolles, dans le livre une séquence hallucinante de ZAD, on va pas dire urbaine, donc elle est pas du tout urbaine, hein, elle est maritime.
Rurale et maritime.
Mais par rapport à ce qu'est aujourd'hui Porquerolles, c'est la quintessence en fait d'une île privatisée quasiment, c'est-à-dire inaccessible pour le commun des mortels. Il faut déjà payer cher pour y accéder.
Le ticket d'entrée de l'ordre du million d'euros à peu près. Ouais.
Ah non, mais je crois que c'est 20 000 euros le mètre carré hein, quand même. C'est extraordinaire.
Et un condensé de Côte d'Azur, mais de Côte d'Azur paradisiaque, non urbanisé.
Non, ce qui est hyper intéressant, parce que moi c'est une île où je suis allé souvent hors saison, donc où t'es absolument seul sur les chemins. Bon, c'est paradisiaque. Mmh. Et c'est une île extrêmement variée. En réalité, quand tu la connais, moi, j'ai fait dans tous les sens. Hein. Je peux faire guide touristique à Porquerolles, dans tous les trucs les plus bâtards. Puis il y a beaucoup de forts abandonnés. Il y a beaucoup de batteries enterrées, etc. Donc c'est assez passionnant, même en exploration urbaine. Mais surtout, c'est l'archétype de l'île qui a été complètement préemptée par la richesse, quasiment privatisée, effectivement, et qu'il faudrait redonner aux gens, tout simplement, quoi. Tu vois, il n'y a aucune raison qu'une île aussi belle soit dévolue à une certaine classe sociale. Voilà. Mais c'est tellement archétypal. Voilà. Donc ça me plaisait beaucoup de faire vraiment un truc complètement contre-intuitif, de dire une ZAD se met là-bas. C'est vraiment le dernier lieu où on imagine.
C'est Notre-Dame-des-Landes sous le soleil, en
ouais,
fait.
Ouais, c'est ça. Et c'est quand même beaucoup plus cool que Notre-Dame-des-Landes, hein, parce que la boue de Notre-Dame-des-Landes en novembre, moi, j'aime autant vous dire que c'est pas très fun. Hein, c'est pas Porquerolles, ouais. Mais j'aimais bien cette idée contre-intuitive, ça m'a fait rire. Ça m'est monté d'un coup une fois. J'ai dit, mais oui, mais c'est là que j'aimais. Parce qu'au début, je voulais le mettre à Groix ou dans des îles bretonnes où c'était un peu plus cohérent, etc. Mais là, j'ai dit, non, mais justement. Ouais.
Il y a un autre endroit où se passe l'action aussi. Et je trouve que ça dit quelque chose aussi de la région de la Provence. Et c'est pas la Provence, effectivement, de Pagnols, c'est le delta du Rhône,
ouais,
au large de Port-Saint-Louis.
Ouais.
Dans un univers, moi, qui m'a toujours semblé un peu de science-fiction, en fait, où il y a à la fois la nature brute et l'industrie brute aussi.
Bah, c'est un lieu en plus que j'ai découvert quand on avait créé une promenade sonore avec Florian Pochon, qui avait d'ailleurs travaillé à Radio Grenouille pendant tout un moment. Et cette promenade sonore, elle était à un endroit qui est absolument dingue, qui s'appelle La Gracieuse d'ailleurs, je crois. C'est au bout de la plage Napoléon. Et c'est à la fois entre une espèce de plage où t'es face à des tankers, parce que c'est ça hein, quand même, tu te baignes face à des tankers qui sont à 500 mètres, qui sont à côté d'un marais salant, une sansouire, qui juste à côté du Rhône aussi, et tu as derrière les 22 sites Céveso de Fos-sur-Mer, avec toutes ces torchères qui sont comme des fusées posées sur un pas de tir, quoi. Et j'adore cet endroit. C'est un endroit qui... Et donc de poser une île balinaise pas loin à Port-Saint-Louis-du-Rhône, alors que c'est quand même, en termes de pollution, je pense que c'est un des records français, ça me plaisait aussi d'être à l'envers. Et toujours l'idée d'île, parce que bon, voilà, on sait que l'utopie de Thomas More, c'est déjà une île, il y a beaucoup d'utopies qui se passent sur des îles. Tu peux te dire, dans un espace plus circonscrit, tu peux tenter de développer des
choses. Là, pour le coup, c'est très technopunk, là.
Ouais. Alors, c'est ultra technopunk, ouais. J'adore, moi. Mais l'endroit est tellement fou. C'est à la fois un espace naturel très beau et quelque chose qui est ultra industrialisé, parce que t'as les terminales chimiques, pétroliers, t'as tout, quoi.
Est-ce que vous avez suivi, il y a un enjeu de... au niveau d'un pont qui doit être construit pour aller vers Sainte-Marie de la Mer.
D'accord, non, je connais
pas. Et les Salins du Midi, là où il y a un bac actuellement, avec des mobilisations.
Ah oui, le bac qui traverse, d'accord, ouais. Et ils prévoient un pont ?
Oui.
D'accord, non, je ne connais pas ça.
Projet. Ouais.
Et des craintes de trafic routier et de camions qui traverseraient cette zone.
Ah si on peut détruire encore la Camargue, allons-y, quoi.
Alain Damasio, on a compris que la technique, il fallait s'en méfier. Néanmoins, il y a une petite musique depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle une petite musique qui valorise cette technique, ce qu'on appelle l'homme augmenté, le transhumanisme ou l'amélioration du corps humain grâce à la technologie. Tout ça aussi, c'est méfiance absolue.
Ah bah là, c'est méfiance absolue parce que c'est grave et dangereux. Bon, d'abord d'un point de vue purement croissance des inégalités et obscénité, c'est que forcément, si cette augmentation peut avoir lieu d'un point de vue physiologique, mémoriel, cognitif, enfin, peu importe le système, ça ne concernera qu'une infime proportion des gens parce que ce sera très cher et que ça donnera encore un avantage concurrentiel à des gens qui ont déjà l'avantage capitalistique de fils de riches souvent. Donc c'est déjà en soi accroître encore des inégalités et les rendre encore plus fondamentales et plus natives. Donc ça, c'est très grave. Et puis surtout parce que c'est une conception de l'homme que je trouve complètement débile. C'est-à-dire c'est considérer que l'homme normal avec toutes ses capacités est déjà handicapé, tu vois. C'est-à-dire qu'il nous manque quelque chose, qu'il y a un manque à être dans l'être humain fondamental et que donc il faut l'augmenter, tu vois. Or moi, je dis toujours, bah, je pense qu'on est très loin d'avoir été au bout de ce qu'on peut en tant qu'être humain. On est très loin dans nos vies de déployer toutes les facultés qu'on a en nous. Donc déjà, apprenons, éduquons les gens à aller au bout de ces facultés-là. Et je pense qu'on se rendra compte que l'être humain est une machine fantastique, quoi. Voilà, on n'a pas du tout besoin d'être augmenté, tu vois. Et même le désir d'augmentation trahit déjà qu'on ne sait pas vivre au présent, qu'on ne sait pas habiter nos sensations, qu'on ne sait pas habiter nos perceptions, qu'on ne sait pas habiter notre intelligence. Et c'est parce qu'on sent qu'on ne sait pas habiter ça qu'on demande vite une augmentation comme une réponse à quelque chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire, pour moi.
Tout à l'heure, on parlait de techno-punk, on parle de territoire, et vous parlez, de bio-punk aussi, et la nature et les espaces naturels sont très présents dans Les Furtifs. Et la Provence, toujours. Ah ben oui, quand même, on est le rallye.
Mais c'est un vrai livre provincial.
Eh ben oui, c'est vraiment loup furtif. Ça, vous ne l'avez pas fait hein, dans ce marathon médiatique. Mais ça dit des choses, je trouve, de cette région en particulier. Alors, il y a le Verdon et finalement une forme de maquis. Là aussi, on est sur un territoire assez gentrifié hein, dans la vraie vie.
Ouais.
Mais dans le monde justement technique, cerné, tracé, dystopique dont vous parlez, ces espaces, on parlait tout à l'heure du delta du Rhône et des îles, et puis ces espaces de maquis du côté du Verdon deviennent des lieux de respiration. Alors c'est compliqué. Hein.
Ouais, bien sûr.
Mais quand même.
Moi, j'ai toujours une perception quand même, il faut être clair, je veux dire, l'urbain, la ville est une espèce d'espace test du contrôle. C'est-à-dire que c'est en ville qu'on a développé les mécanismes de captation, les senseurs, voilà. Et tout ce qui est mobilier urbain, préleveur de traces. Alors on le voit aujourd'hui, maintenant tu peux passer les feux rouges et puis t'es flashé et puis tu prends l'amende directement. Moi ça m'est arrivé à Marseille. Hein. Je vous le dis, juste après le lycée Daumier, il y a un feu avec un flash. Donc tu prends 35 euros d'amende. Voilà, c'est la machine qui te ferme. Donc ce type de construction, c'est-à-dire que la ville est saturée de plus en plus. Et c'est ça l'idée des smart cities, c'est pas du tout d'améliorer vos vies. Hein. C'est d'augmenter le nombre de capteurs et de senseurs qui vont prélever de l'information sur vous. Donc qui vont générer encore une fois de la trace. Et ces traces, ben, de s'en servir effectivement pour donner un peu des services, mais aussi surtout pour savoir où vous êtes, quand vous êtes et ce que vous faites. Voilà, donc pour moi la ville a cette dimension-là. Par contre, le rural, et ça je l'ai vraiment vécu dans le Vercors et en Corse, quand vous repartez à la campagne, ben, évidemment il n'y a plus de caméras, évidemment il n'y a pas de senseurs, évidemment il y a quand même des espaces dans lesquels vous êtes libre. Alors vous pouvez toujours vous dire qu'il y a une surveillance satellitaire et que si vous avez un portable vous serez géolocalisé, mais si vous vous baladez sans portable, vous retrouvez quand même une certaine liberté, ce qui n'est plus le cas en ville. Hein. La ville est totalement quadrillée aujourd'hui, quoi. Et ça sera de pire en pire, hein, en plus.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi avec Alain Damasio, Michel Guéroux.
On ne l'a pas dit en fait, mais on n'a pas parlé de ce qu'est un furtif et ce qui nous amène et nous permet de continuer sur cette. Je pense que c'est l'expression que vous utilisez, c'est zoopunk, hein, c'est-à-dire cette figure du vivant.
Bien sûr, ouais.
Qui est un furtif. Alors qu'est-ce que c'est un furtif?
Un furtif, bon, c'est deux choses dans le livre, c'est ça qui fait un peu la complexité du bouquin. C'est l'intraçable en fait, c'est un être vivant, donc bon, concrètement, c'est un être vivant qui serait un des premiers êtres vivants, mais on s'en aurait pas rendu compte, c'est-à-dire qu'il vivrait dans l'angle mort de nos vies humaines et de nos visions humaines, et qui serait constitué d'éléments végétaux, animaux, champignons, bactéries, etc. C'est-à-dire qui courirait tout le champ du vivant, et surtout qui serait intraçable. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas de traces, il ne veut pas être vu, il peut être entendu mais pas vu, Et si on veut le voir, il se fige immédiatement sous une forme de céramique à très haute température, ce qui fait qu'il vous laisse un bloc de céramique dont l'ADN n'est pas prélevable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre son fonctionnement, on ne peut pas le dupliquer, on ne peut pas le cloner, etc. Donc pour moi, c'était cette incarnation-là, c'était vraiment trouver une métaphore qui dise voilà vers quoi l'être humain devrait pouvoir tendre ou devrait encore être. Tu vois, c'est un peu aussi ce que je dis au début avec Novarina en disant voilà, allez annoncer partout que l'homme n'a pas encore été capturé. Quoi. J'adore cette très belle phrase de Novarina, mais j'ai l'impression qu'on est quand même en voie de capture. Et les furtifs, c'est exactement l'envers de ça. Donc c'est l'envers du contrôle, l'envers de la trace. Et puis l'autre élément, c'est que moi je voulais travailler sur le vivant, c'est ça qui m'intéressait, c'est pour ça que je dis que c'est du zoopunk. C'est-à-dire de dire bah, qu'est-ce que ça serait la plus belle, la plus haute, la plus noble forme du vivant. Et là, je travaille sur les idées de métamorphose, sur les idées de composition permanente avec l'environnement. C'est-à-dire que pour moi, la capacité à être ouvert en permanence sur son environnement proche et à se composer et à faire rencontre avec l'environnement proche, je trouve que c'est la plus belle des dimensions de l'être humain. Je trouve que voilà, quand dans une journée, tu fais une rencontre, mais je ne parle pas simplement d'un être humain. Mais des fois, tu rencontres un chat, des fois, tu rencontres un type de lumière, des fois, tu rencontres la mer ou un certain... ou le Mistral, tu rencontres un film, tu rencontres un livre, etc., une musique, tu peux rencontrer énormément de choses, et c'est ça qui va te faire grandir, qui va te donner plus de profondeur intérieure, qui va te faire évoluer. Donc cette faculté à être apte à la rencontre et à favoriser ces rencontres, c'est typiquement ça, les furtifs. Voilà. Donc pour moi, ça vient incarner ce qu'on devrait être, voilà, ou ce qu'on devrait tendre à être si on allait, encore une fois, au bout des capacités que l'humain possède nativement.
Alors on l'a dit au début, le portrait de Damadio sera inachevé, on va pas cerner les furtifs en une heure, c'est une somme, c'est un univers. Et puis il y a aussi dans le livre, 700 pages, une BO, un album avec Yann Péchin, guitariste, et vous qui lisez des extraits. On va en passer un morceau, Entrer dans la couleur.
Le vivant. Le vivant n'est pas une propriété, un bien qu'on pourrait acquérir ou protéger. C'est un milieu. C'est un champ qui nous traverse, dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain, c'est d'être digne de ce don sublime, d'être vivant. Et d'en incarner, d'en déployer autant que faire se peut, les puissances. Qu'est-ce qu'une puissance ? Une puissance de vie. C'est le volume de liens, de relations qu'un être est capable de tisser et d'entrelacer sans qu'il s'effondre. Ou encore, c'est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables. Vivre revient alors à accroître notre capacité à être affecté, donc notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému. Contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un lieu, ce sont des liens élus. À l'inverse, faire face à des stimulus et y répondre sans cesse pollue notre disponibilité. L'économie de l'attention ne nous affecte pas, elle nous infecte. Elle encrasse ses filtres subtils, sans lesquels il n'est pas de discrimination saine entre les liens qui libèrent et ceux qui aliènent. Nos puissances de vivre relèvent d'un art de la rencontre, qui est déjà en soi une politique, celle de l'écoute et de l'accueil, de l'hospitalité au neuf qui surgit. C'est la capacité à se tenir debout dans l'ouvert, dans ce qu'on pourrait baptiser le rouge ou vert. Un champ d'intensité vibratile et frémissant, attentif et vigile.
On est un petit peu loin des élections municipales qui approchent là. C'est expérimental, hein. On peut s'étonner d'ailleurs des fois parce que votre roman, encore une fois, il a plusieurs niveaux et il peut se lire comme un thriller aussi. Mais ce succès, il n'est pas évident parce que parfois vous faites des trucs
ouais,
qui pourraient faire peur aux gens.
Je suis très surpris moi aussi parce que je trouve que c'est pas un livre facile. Enfin, tu vois, c'est au sens où voilà, c'est un livre qui est en polyphonie. On a 6 personnages différents, on a 6 styles différents. Il y a beaucoup d'anticipation.
Il y a poésie aussi.
Ouais, il y a le travail typographique. Enfin, il y a beaucoup d'ambition. C'est un livre qui m'a pris 15 ans, hein, quand même, en tout d'étalement et 3 ans d'écriture quasiment, on va dire, à temps plein. Donc, c'est dense, c'est chargé. On me le reproche des fois, hein, de dire, oui, c'est un livre très dense. Mais moi, j'ai envie de livrer une brique qui, quand tu prends la peine de rentrer dedans, t'es nourri. Voilà, je pense que t'es nourri.
Vous agrégez tous les vitalistes, là?
J'espère, ouais.
Et pourtant, Alain Damasio, hier, vous étiez au Tourski pour parler Gilets jaunes, parce ouais. que ça, c'est aussi... Et vous sortez avec d'autres auteurs, vous avez écrit une nouvelle pour un nouvel horizon social au Diable Vauvert sur les Gilets jaunes, entre autres.
Ouais.
Les Gilets jaunes, alors, comme ça, là, quand on vient d'entendre le morceau, on se dit, mais tiens, c'est un petit peu loin de son univers, là.
Ouais, en même temps, ça s'appelle Entrer dans la couleur, le titre, donc... Non, c'était marrant parce qu'en plus j'étais en plein bouclin. Enfin, j'étais en train de terminer le roman au moment où les Gilets jaunes ont émergé. Enfin, dans les 3 ou 4 derniers mois. Et ce qui était marrant, c'est que ça convergeait avec l'émeute dans le roman, avec le côté insurrectionnel du livre, etc. Et du coup, ça m'a alimenté et ça a fait résonance avec ce que j'étais en train de faire. D'où l'émeute d'ailleurs à Marseille à la fin du bouquin. Non, bah les Gilets jaunes, pour moi, ça a été vraiment une surprise que j'attendais pas, et une vraie divine surprise, au sens où j'avais l'impression que le rouleau compresseur libéral macroniste allait aller au bout sans aucune résistance, que toutes les têtes avaient été coupées, que après la loi travail et l'absence de capacité de notre résistance à bloquer ces lois qui sont des vraies lois liberticides, qui sont des vraies lois qui dégradent la vie des gens qui travaillent tous les jours. Je me disais, c'est mort, quoi. Et là, tout d'un coup, émerge comme ça une catégorie de gens qu'on n'avait jamais vus dans les manifs, pour la plupart, qui avaient joué le jeu du système pendant longtemps, qui travaillaient comme on leur disait de travailler, qui votaient comme on leur disait de voter, et qui se rendent compte qu'on se fout de leur gueule, quoi. Voilà, que malgré tous les efforts qu'ils font pour être au service de ce système et le respecter, le système, lui, ne le respecte pas, et qu'il faut lever la tête, quoi. Voilà, donc... Et que cette catégorie-là de gens se réveille, ouais, c'était complètement inattendu, je crois, pour beaucoup de gens, et beaucoup de gens à gauche et à l'extrême gauche, comme moi, quoi. Donc ça a été...
Avec de l'altérité aussi, par exemple, du côté d'Orange, la ville.
Ah ouais, ouais, ouais.
Beaucoup de fachos aussi, sur les ronds-points.
Mais moi, ça m'a jamais dérangé. Enfin, tu vois, je trouve que tu peux... voilà, d'abord que tu dois parler aux gens qui n'ont pas du tout les mêmes opinions que toi. Moi, c'est pas parce que quelqu'un me sort une phrase raciste que je vais arrêter de discuter avec lui. Voilà, je veux dire, il peut avoir une partie de lui qui est raciste, il peut avoir une partie de lui qui est géniale. On n'est pas des blocs monolithiques, quoi, tu vois. Quelqu'un qui dit une phrase raciste ne se définit pas par son racisme intégralement, voilà. Il peut dire une phrase raciste, je peux pas être d'accord avec lui et je vais l'affronter là-dessus, mais ça veut pas dire que c'est pas un mec génial par ailleurs sur d'autres choses. Moi, j'aime pas cette idée que, voilà, on prend un élément de quelqu'un et on résume, on fait une métonymie, en fait. C'est-à-dire qu'on résume la personne. Il est sexiste, il est raciste, il est machin. Ben oui, mais tu épuiseras jamais une personnalité en disant ça, quoi. Et surtout, tu permettras jamais à cette personnalité d'évoluer et d'aller dans une direction beaucoup plus intéressante si tu l'ostracises immédiatement parce qu'il a fait une blague de cul que tu trouves sexiste, quoi. Tu vois, c'est... Donc là-dessus, moi, pour ça, les Gilets jaunes, je trouve ça génial, parce que voilà, il y a des gens qui, effectivement, n'avaient pas, a priori, le même bord politique aussi, se sont retrouvés sur les ronds-points, et puis finalement, ils se rendent compte qu'ils ont plus de choses à partager en commun que de choses... Et ces gens-là, tu les mettais sur des réseaux sociaux ou sur Twitter, ils se seraient écharpés, quoi, tu vois. Donc c'est ça, c'est vachement intéressant.
C'est des gens qui sont nés du digital, du numérique, de Facebook, tout ce que vous...
Pas tous. Je trouve à Marseille, il y a beaucoup de retraités, hein, beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas des digitales natives. Hein, ouais.
Et Facebook a été un amplificateur.
Ouais, mais Facebook a été un amplificateur parce que t'as un truc particulier avec ce libéralisme, c'est que les gens, on est atomisé dans une société qui, que voilà, ce libéralisme a atomisé, c'est leur principe, c'est de dire, les gars, les liens, ça va vous aliéner, donc on va vous délier et vous allez vivre comme des atomes indépendants, consommant chacun dans votre coin et essayant dans cette compétition généralisée de tirer votre épingle du jeu, tu vois. Et les gens, ils ont joué ce jeu-là, ils sont souvent en périurbain rural, c'est-à-dire en plus à l'extérieur des villes, ils sont obligés de prendre la bagnole pour aller bosser, etc. Et ils se rendaient pas compte que l'expérience qu'ils vivent, c'est-à-dire la galère qu'ils ont avec leur CDI, avec leur mi-temps, notamment pour les femmes, etc., ben en réalité, c'est une expérience partagée par des millions de gens. Et là, les réseaux sociaux ont joué un rôle, c'est-à-dire qu'ils ont permis à des expériences très éparpillées de trouver un point commun et de se dire « Mais attends, les gars, moi, on vit la même chose, en fait, tu vois ?» Et pour ça, le réseau social a été, je trouve, hyper utile, c'est-à-dire qu'il a fait prendre conscience aux gens qu'ils vivaient une expérience commune. Et après, ils se sont retrouvés vraiment en face-à-face, corps à corps, j'appelle ça, moi, le vieux miracle du face-à-face, c'est-à-dire sur des ronds-points, dans des lieux d'occupation. Et là, bah, ça s'est déployé parce que il y a cette présence. Ça, ça restait uniquement sur le réseau. On parlerait pas des gilets jaunes. C'est aussi parce que il y a eu des lieux de convergence concrets où les gens bah, pouvaient se parler, vivre ensemble, faire des choses et se découvrir que c'est, ça est devenu puissant. Mais ce qui est vrai, c'est que les réseaux sociaux ont permis de ces électrons éparpillés de qui se reconnaissent aussi. Tu vois.
Vous dites, et ça vous distingue, je pense, d'un certain nombre d'auteurs de science-fiction, que le vous racontez une dystopie, comme beaucoup d'autres dans la science-fiction, c'est presque sûr, le genre. Hein.
Un classique, ouais.
Mais vous dites que la littérature est là pour donner de la pêche, pour ouvrir des champs du possible, et donc l'utopie, les utopies, ça doit servir à ça aussi, la littérature. Les furtifs doivent servir à ça, et il y a un lien à faire peut-être avec les gilets jaunes et d'autres
ah,
choses.
Puis c'est extraordinairement,
comment ça marche,
hein. C'est extraordinairement important. C'est-à-dire que moi, j'en peux plus, mais comme beaucoup de gens, hein, de la masse critique qu'on a à gauche et à l'extrême gauche, où on est constamment en train de décortiquer le système et de montrer à quel point l'ultralibéralisme est horrible et détruit tout. Et on reste dans l'espèce d'ombre portée de ce que fait ce libéralisme et dans le ressentiment, la mauvaise conscience, la rancœur, le désir de vengeance, etc. C'est-à-dire qu'on est prisonnier des affects négatifs que génère ce système. Et quand on en reste là, on fait des très bonnes dystopies, d'accord, des très bons mondes cauchemardesques, mais on n'empuissante absolument pas les gens. On les met face à l'impuissance, face à cette espèce de mur et de golem capitalistique, sans que les gens puissent se dire mais comment je vais échapper à ça, quoi, tu vois.
En même temps, ce golem, le capitalisme, c'est un peu les murs de la prison que vous décrivez dans le livre, ouais, qui nous entourent. Ça sointe le capitalisme, le libéralisme.
Bien sûr, bien sûr. Mais le but, c'est pas de décrire pour la énième fois à quel point c'est horrible, tu vois. Même si moi, je mets un fond dystopique, c'est de dire bah comment on en sort. Voilà, comment on en sort, de quelle façon, qu'est-ce que c'est l'élément clé pour en sortir. Comment on lutte contre ce système et pas seulement lutter, pour moi c'est comment on propose autre chose, c'est-à-dire comment on en sort. Voilà, vraiment, c'est vraiment ça l'idée. Et en sortir, bah, il n'y a pas des milliards de choses en ce moment. On a eu les ZAD, on a eu Nuit Debout, on a eu des mouvements aussi avec les Black Blocs, la loi travail, etc. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a plein de petites initiatives qu'on tait d'ailleurs, que les médias dominants taisent, parce que justement, en parler, ça serait montrer qu'il y a des petites lucarnes qui s'ouvrent ou des petites fenêtres qui s'ouvrent dans ce régime. Mais moi, en tant qu'écrivain, voilà, c'est mon rôle de reconnecter, de renouer avec le vivant, de montrer.
Ça fait sens de la même manière pour vous, les zadistes, les gilets jaunes, peut-être les Black Blocs ou Nuit Debout.
Pas de la même manière, c'est très 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 pluriel et ça j'aime bien. C'est-à-dire que moi, je crois qu'il faut arrêter avec la solution unique, encore une fois monolithique, de dire bah voilà, c'est l'anarchiste qui nous sauvera, c'est le communisme qui nous sauvera, c'est l'écologie qui nous sauvera. C'est-à-dire que je pense qu'il faut garder cette pluralité, cette espèce de polyphonie d'envie, de désir, de lutte. On sait l'ennemi commun, on sait aujourd'hui, je pense quand même, c'est assez clair pour tout le monde, c'est ce capitalisme extractiviste qui à la fois pille toutes les ressources de la planète et la bousille et en plus détruit nos existences en créant des classes sociales et des inégalités absolument insupportables et en plus en nous verrouillant dans un désir consumériste permanent qui débouche rien et surtout qui nous rend pas heureux. Donc ça, l'ennemi, il est à peu près identifié par toutes les forces. Maintenant, la façon d'en sortir, elle va être multiple, tu vois. Il faut surtout pas essayer de dire, bah non, la seule solution, c'est c'est d'être zadiste. Non, parce que le zadisme, pourquoi c'est pas la seule solution? Parce que quand tu vas sur les ZAD, tu te rends compte que, j'ai envie de dire, c'est une élite vitaliste là-bas, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont des super militants, c'est des gens passionnants, c'est des grands vivants, c'est des gens qui, pour moi, sont extrêmement admirables parce qu'ils sont à la fois capables d'être à 6h du matin sur un... sur un piquet de grève à Saint-Herblay, puis d'aller ensuite préparer la cantine à Nantes et faire la manif l'après-midi en se prenant toutes les lacrymos et revenir le soir et porter un peu de bois et aller scier 2-3 poutres pour la cabane autoconstruite qu'ils vont faire. Et tu vois ça, tu fais, bah les gars, chapeau quoi, tu vois. Enfin, quand je dis les gars, c'est les nanas tout autant, et t'as des nanas incroyables aussi sur les arbres où tu sens une puissance fabuleuse. Mais tout le monde n'est pas capable de faire ça, tu vois. Tout le monde n'a pas la puissance pour ça. Quand je parle de puissance, c'est de puissance intérieure. Donc tu peux pas généraliser la ZAD. Mais la ZAD est une façon de faire. Comme Nuit Debout, je veux dire, ce que ça a permis en termes de discussion, de conscientisation politique, notamment chez les jeunes, d'investissement de ce que c'est une vraie démocratie, c'était génial. Mais tout le monde n'a pas non plus le type de personnalité pour aller discuter pendant des heures en essayant d'imaginer, tu vois. Donc il faut qu'il y ait des... Et pareillement, les gilets jaunes, c'est encore une autre façon. C'est le rond-point, c'est, tu vois, c'est les barbecues, c'est les cabanes autoconstruites. Enfin, tu vois, il y a... Et c'est complémentaire, voilà. Il faut qu'il y ait de plus en plus de possibilités comme ça.
Il y a un élément sur lequel vous insistez régulièrement, c'est votre refus de condamner la violence. Je fais pas mal et à Salamé, mais voilà, ouais. quand on vous pose la question, alors les gilets jaunes, et, ça vous énerve, cette histoire de la violence. Et pourtant, on sent une tension, moi je trouve, par exemple, si on lit votre nouvelle dans le... Ces trois nuances de jaune et ces nuances-là, elles parcourent, je trouve, cette histoire-là. C'est-à-dire que on sent que vous avez envie de promouvoir quelque chose d'un peu solaire dans les luttes sociales, de positif, vous venez de le dire.
Ouais.
Et en même temps, vous ne voulez pas condamner la face noire un petit peu de cette colère, hein, les Black Blocs.
Parce que pour moi, ce n'est pas du tout une face noire. Pour moi, c'est... C'est aussi, je trouve qu'on
si
fait.
Si on prend Marseille, il y a des manifs en ce moment et ça part des fois en baston.
Alors bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, déjà, je pense que d'un point de vue pure efficacité militante, pure efficacité du combat, il faut absolument articuler non-violence et violence. C'est-à-dire que aucun des deux mouvements seuls ne fonctionnera. C'est-à-dire si tu fais de la violence type action directe seul avec des groupuscules affinitaires. Bah d'abord, tu finiras par te faire choper et finir en prison. Mais surtout, tu seras trop en avance sur ce qu'il faut condamner, battre, abattre, etc. Et les gens vont pas te suivre et il y aura pas d'effet de masse. Si tu fais que de l'effet de masse en te disant plus il y a des mondes en manif, plus on arrive à faire de pétitionnaires sur telle ou telle pétition, et plus on est gentil, pacifique, plus on fait de la désobéissance civile, mais vraiment douce et tranquille, et vous allez voir, ça va faire basculer. On se rend compte que ça marche pas, parce qu'en face, t'as un appareil répressif qui a jamais été aussi fort depuis 1945, hein. Je veux dire, tu regardes ce que dit David Dufresne. En 6 mois, il y a eu plus de blessés par la police qu'en 20 ans auparavant, tu vois. Donc il y a une montée répressive extrêmement forte.
Et le gouvernement, il va y avoir le 5 décembre des manifs où certains veulent faire converger les mécontentements.
Et le gouvernement,
on l'entend dès maintenant, dit attention, ça va être violent, etc. On sent qu'ils ont envie que le mouvement se marginalise et qu'il y ait une espèce d'affrontement qui leur est utile.
C'est plus complexe que ça. En fait, les gens disent oui, mais en étant violent, vous servez le gouvernement. C'est pas vrai, parce que c'est parce qu'il y a des violences que le gouvernement bouge. Ça, c'est très clair. Maintenant, s'il y a que des violences et qu'ils avaient isolé les violents de l'autre masse, ça ne fonctionnera pas. Donc, ce qu'il faut, et c'est ce qu'on a vu sur les gilets jaunes, et là-dessus, je trouve que ça a été parfait, c'est que les gilets jaunes ont soutenu les violences. Et quand on dit violence, c'est pas les violences contre les flics, c'est pas les violences contre des personnes, c'est les violences contre les biens, tu vois. Et on essaie de faire converger dans le discours et la langue de bois gouvernementale, de dire violence, parce que tout le monde, quand on voit violence, il a l'impression que t'as quelqu'un qui va te matraquer ou te mettre un coup de poing ou te faire saigner du nez, etc. En réalité, les violences dont il parle, c'est juste qu'on défonce des vitrines, tu vois, des abribus déco, on va mettre le feu à la devanture du Fouquet's, oh la belle affaire, enfin tu vois, en quoi c'est violent, tu vois, en quoi c'est violent.
Détruire l'outil de travail d'autrui, c'est...
L'outil de travail d'autrui, l'outil
de maximisation des... Il y a des serveurs. Alain Damasio.
Oui, mais c'est pas eux, si tu veux, qui sont touchés à ce moment-là, c'est les détenteurs du patrimoine. Donc si tu veux, là-dessus, il faut être très clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une lutte qui est réussie, qui n'est pas articulée intelligemment les deux, voilà. Tu prends Gandhi, même Gandhi, si tu regardes Gandhi sous occupation, donc évidemment britannique, oui, il y avait des grandes masses pacifiées, etc., et une non-violence, mais tu avais aussi des mouvements qui étaient violents, qui attaquaient les Britanniques, et qui ont fait que ça fonctionnait, tu vois. Tu prends Mandela, l'incarnation, maintenant on essaie de faire l'incarnation de la non-violence, mais Mandela, c'est l'ANC, tu vois, il n'aurait pas fait 27 ans de prison s'il n'y avait pas aussi des actions violentes, et c'est pour ça que ça a marché. Donc, faut vraiment le concevoir comme un ensemble, comme une pince, tu vois, voilà. Et la pince, elle a besoin des deux bouts. Donc moi, et en plus dans la violence, dernier truc, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours valorisé la colère. Je trouve que la colère est un affect extrêmement sain. C'est l'abbé Pierre qui le disait. Et pourtant, Dieu sait, c'est un des 7 péchés capitaux. Il disait, ce qui a été le plus précieux dans ma vie, c'est ce don de la colère. C'est la colère que j'ai réussi à garder en moi. Et pour moi, c'est extrêmement précieux aussi, ça.
La colère dans le sens indignation.
Ouais, et dans le sens que la violence, à un moment donné, eh ben, c'est de la vie. Et quand tu subis des violences systémiques en permanence, que t'es pas retenu aux entretiens à embauche parce que t'es black, que tu peux pas être bon à l'école parce que t'as pas les bons parents qui t'aident, etc. À un moment donné, quand tu subis cette violence pendant des dizaines d'années, que tu la restitues, que tu la réfractes et que tu te défoules, c'est parfaitement sain pour moi psychanalytiquement et physiquement, tu vois. Donc on a besoin que cette violence soit restituée, parce que si elle n'est pas restituée, ça veut dire qu'elle est intériorisée. Et si elle est intériorisée, bah, ça aboutit à l'autodestruction, ça aboutit au médoc, ça aboutit au suicide.
La nouvelle brique,
et ça aboutit aux violences conjugales. Voilà,
la nouvelle brique du gouvernement dans le mur qui érige le gouvernement, c'est l'apparition, en tout cas l'officialisation de nouveaux concepts comme la société de vigilance. Alors selon le président de la République, il faut être vigilant dans les lieux de culte, ça peut se comprendre avec le contexte. Il faut être vigilant aussi sur les lieux de travail, le voisinage. Qu'est-ce que ça dit tout ça? C'est toujours dans le même vecteur, dans le même vortex.
Ça dit qu'il voudrait que tous les citoyens deviennent des flics, voilà. Et il voudrait que le contrôle se généralise, que la surveillance se généralise et soit exercée par tous les individus, les uns sur les autres, tu vois. Ce qui est le propre des régimes totalitaires en réalité, tu vois. Donc voilà, c'est juste une extension indéfinie des domaines du flicage et incarnée, portée, relayée par tous, quoi, tu vois. Cette espèce de rêve de tous les totalitarismes. Et quand ils réussissent ça, bah, la société elle bouge pas pendant des années et des années, parce qu'effectivement, quand t'as obtenu la vigilance croisée, plus rien ne bouge, quoi.
Un mot sur les médias, sur les médias.
Bah, les médias,
ils participent pleinement au contrôle des émotions en ce moment. Bien sûr, émotion.
Puis là, c'est pareil, tu vois. Quand on dit on n'a jamais eu de tels niveaux de répression, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est qu'on n'a jamais eu une presse aussi soumise à l'idéologie libérale qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, on le sait tous maintenant. 90% de la presse écrite est détenue par 9 milliardaires, d'accord ? Qui à E10, hein, je crois, ils pèsent 260 milliards d'euros. Ça fait 11 millions d'années de SMIC, hein, il faut quand même le dire, ce genre de choses, pour qu'on mesure ce que c'est. C'est-à-dire que ça élimine le chômage immédiatement. Donc, on a des médias qui simplement sont des médias qui sont la Pravda du libéralisme, c'est tout, voilà. Et qu'on vit dans ce monde-là, et c'est pour ça que c'est aussi difficile de retourner, de faire prendre conscience de certaines choses, parce que on est martelé effectivement quotidiennement par une idéologie qui est celle du confimérisme et qui est celle du capital, quoi. Donc c'est très simple à dire, mais voilà, et les médias indépendants rament pour avoir des subventions, rament pour être auto alimentés, et c'est très compliqué, ouais.
Michel,
vous dites aussi le vote est le plus bas niveau de l'engagement politique, mais je crois que vous votez malgré tout.
Ouais, bien sûr, c'est-à-dire que c'est très simple voter, parce que ça te prend 5 minutes, tu vois. Donc pourquoi ne pas aller le faire si ça peut avoir un minimum de poids? C'est l'acte politique qui demande le moindre effort. Quand vous faites une manif, c'est tout de suite 2-3 heures, c'est du déplacement, c'est de la fatigue, c'est du physique, c'est vous prenez maintenant les lacrymos systématiquement quand c'est pas les grenades Gli F4 et tout ça. Donc, bah allez voter, évidemment.
Parce que c'est Alain Damasio.
Mais sans illusion du tout, tu vois.
Cette servitude volontaire un peu, non? On est toujours dans la boétie, là. Ça participe, en fait.
Mais non, mais les gens, c'est pareil, ce genre de débat, moi, ça me fait marrer, parce que les gens, ils disent, moi, je vois, j'ai plein de potes autonomes, totaux, etc. Ils disent, mais ça sert à rien d'aller voter. Enfin, tu vois, c'est méprisé. Bah, je dis, si, ça peut servir. Que t'aies un parti de gauche qui soit à 20 ou 25, bah ça fait la différence entre il passe au second tour ou il passe pas au second tour, et ça pèse ensuite sur la médiatisation. Donc faisons-le, mais sans illusion. Le vrai acte politique, c'est quoi? Le vrai acte politique, c'est d'occuper des lieux, c'est de descendre dans la rue, c'est de manifester, c'est d'être dans une association de migrants, c'est d'accueillir des migrants chez toi, etc. Tout ça c'est des vrais actes politiques. Donc oui, le vote est le plus bas niveau de la politique, mais il doit pas être exclu de ça fait partie de la panoplie, voilà. Donc moi, je crache pas sur les gens qui votent, vous avez raison, votez, mais sachez que c'est le plus bas niveau, c'est tout, quoi. Ouais.
Michel ?
Alors, vous êtes Marseillais, des élections approchent. On vous a peu entendu parler de la situation de cette ville qui est quand même paradoxale, excessive. Le logement, la rue d'Aubagne.
La rue d'Aubagne, ouais, bien sûr. Moi, c'est bon, alors je suis un, comment on appelle ça, un re-territorialisé à Marseille, puisque j'étais lyonnais, etc., que j'ai pas mal bougé. Donc pour l'instant, je me cache au bout de la ville, dans une pinède, mais évidemment, je peux pas être insensible, bien sûr, à ce qui se passe. Non, ce qui est sidérant quand tu arrives de l'extérieur et que t'es pas marseillais de souche, c'est que tu es dans une mafia. En fait, c'est un système parfaitement clientéliste, tu as des fonctionnements qui sont, qui relèvent parfaitement de cette logique de... vous êtes mes clients, vous faites ce que je veux, et donc je serai élu et reconduit. Voilà, donc c'est... Ce qui est fou, c'est que tu sens que la ville ne s'en sort pas, ne sortira jamais de ça, que c'est une culture tellement imprimée que ça paraît impossible à sortir à tous les niveaux. Donc tu
alors
te demandes ce qu'il faut faire.
Vous venez d'être pessimiste. Là,
ouais, je suis pessimiste là-dessus. Ouais, parce que je pense que c'est des systèmes sociaux qui sont très difficiles à bouger. Voilà, et que s'ils avaient dû bouger, ils l'auraient déjà fait. Donc alors après, comment faire pour casser ces systèmes de corruption? Il y a les lanceurs d'alerte, il y a ce boulot à faire, mais il faut être très courageux pour le faire, et peu de gens ont intérêt à le faire, donc peu de gens le font, et que ça reste, moi je trouve ça très flippant. Et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois déjà arriver les successeurs ou la successeuse, comment on dit ça, de Gaulin. Donc ouais, c'est très...
Sans divulguer les furtifs, hein, comme disent les Québécois, vous parlez de vagues de villes autogouvernées Et la porte n'est pas fermée en 2040.
Non, la porte n'est pas fermée. Mais c'est-à-dire qu'il y a une telle crise de la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'il y a un tel mensonge fondamental lié à la com et lié au système de structuration des votes qui fait que maintenant on a très bien compris ce qu'il faut dire et comment il faut le dire pour avoir les 51%. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que tout passe à 51% en réalité, tu vois. Et même tu peux devenir président maintenant en France en ayant 23 ou 24% des voix.
Parce et on que... peut être maire de Marseille en étant minoritaire en nombre de voix,
parfaitement
c'est déjà
minoritaire.
C'est la loi PLM.
Donc c'est-à-dire que tu fais une politique pour un cinquième ou un quart de la France, ce qui est le cas aujourd'hui hein, avec Macron, je pense qu'il fait une politique même pour 10% de la France, quoi. Et t'es président comme ça, donc le système ne marche plus par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il faut recasser tous les échelons représentatifs pour revenir à des villes vraiment autogouvernées, effectivement, où ça soit les citoyens qui s'emparent du truc. Mais dire ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils s'engagent en politique. Quand on parlait du vote, c'est pas je mets mon bulletin tous les 5 ans et c'est bon, je me suis débarrassé de ce que c'est l'action politique. C'est-à-dire que tu mets les mains dans le cambouis, dans ton quartier, dans les commerces, que tu, par exemple, tu vas tous les printemps à ramasser tous les déchets, que tu participes à la vie de quartier, à la vie associative, que tu vas manifester, etc. C'est-à-dire que, ça demande du temps et de l'implication. Et les gens ne sont pas
boucle,
toujours prêts
à ce que vous disiez au départ.
C'est-à-dire que
le techno-cocon dont vous parliez au départ fait que cet engagement est difficile et mal vécu et paraît
ou alors que tu as
douloureux.
L'impression que tu t'engages parce que tu cliques sur une pétition, tu vois. C'est encore pire, quoi. Donc, tu sais, moi, des fois, je clique sur des pétitions, je me dis, putain, mais Alain, où t'en es, quoi, tu vois. Et tu as l'impression de faire l'acte politique, mais tu sais que c'est pas ça, évidemment, même si ça peut jouer, tu vois. Mais oui, non, le technococon rend plus difficile de déchirer la chrysalide, d'aller sur place, de rencontrer des gens, de se taper ce que j'appelle l'altérité, c'est-à-dire des gens qui parlent pas comme toi, que tu comprends à peine les phrases, qui viennent de Guinée-Conakry, qui viennent de, tu vois, et t'es là, tu fais bon, mais ouais, mais il faut scoltiner ça, c'est ça qui va t'enrichir, c'est ça, ou des gens qui sont vieux, alors que tu côtoies que des gens de ton âge, ou des gens qui ont 18 ans alors que moi j'en ai 50 et que je comprends pas ce qu'ils me racontent et qui disent trop stylé à chaque phrase et que t'en as marre au bout de, tu vois, mais c'est ça qui va nous faire nous construire.
À Marseille,
le technococon ne rend ça moins probable, moins enviable, ouais.
À Marseille, après la rue d'Aubagne, il y a eu plus jamais ça, cette ville doit changer de main, il faut se mobiliser, et puis des collectifs, des assemblées générales, le pacte démocratique d'un côté, des collectifs, le printemps marseillais avec l'Union de la Gauche, les Verts qui veulent faire bande à part, puis des tentatives de recoller les morceaux, c'est laborieux, c'est difficile, beaucoup de monde prédisent l'échec, vous regardez ça comment, vous
moi, loin. Non, ce que je trouve insupportable, parce que moi voilà, il y a des trucs sur lesquels je mets les mains aussi dans le cambouis, et serait-ce que sur les femmes de chambre, on a fait pas mal de trucs sur les hôtels marseillais, etc. Ma copine est très investie sur cette lutte-là, elle est à la CNT, bon bref. Mais moi, ce qui me tue, c'est que l'inertie, à partir du moment où quelqu'un a été élu, a réussi à être élu, il bénéficie de conditions de conforteresse complètement dingues, c'est-à-dire que il peut se contenter d'être dans l'inertie absolue, ne rien faire pour la ville, ne pas bouger alors que des immeubles s'écroulent et tu es 8 personnes. Et toi, tu vas développer une énergie absolument colossale pour faire bouger 5% ou 10% des choses, tu vois. Et ça te demande, toi, un temps fou, une énergie dingue, tu vois, des trucs... Moi, je te prends juste l'exemple des femmes de chambre, ce qu'on avait suivi sur les hôtels Now, tu sais, qu'il y avait à la Joliette et machin. Il y a eu une grève quand même qui a duré 5 mois. On a trouvé des caisses de grève, on a fait des concerts, il y a eu incroyable ce qu'on a réussi à lever. Eh ben, on n'a pas gagné, quoi, tu vois.
Zéro.
C'est là-dessus, hein, mais sur toutes les autres luttes, ça a gagné, hein, mais c'est la seule qui a pas gagné. Mais c'est dingue, voilà. Tu t'imagines l'énergie qu'il faut. C'est ça qui est insupportable, c'est de se dire, putain, si c'était plus démocratique, l'énergie qu'on met là, immédiatement, elle aurait un effet, quoi.
Alain Damasio, on arrive presque au terme de l'émission, et même au terme de l'émission. Dernière remarque, les personnages de votre roman, ils essaient de s'émanciper, de cette situation de surveillance, de ouais, technique absolue. Ouais. Mais il ne renverse rien, finalement. On fait avec le système.
Non, pas du tout. Il renverse plein de choses.
On se remet juste à côté.
Il renverse déjà Marseille, il récupère la ville, il la redonne à l'espace
commun.
C'est
des îlots autogérés. On laisse les autres dans leur servitude. La grande masse, on la laisse dans sa servitude.
C'est parce que ce système n'est pas renversable d'une seule fois. Donc il faut travailler îlot par îlot, faire un archipel et ensuite faire un continent de lutte. C'est juste parce que c'est très difficile de le retourner. On ne retournera pas le capitalisme comme on a retourné la monarchie. C'est pas pareil. Le capitalisme traverse nos corps, les travaille. Et tu peux pas retourner tout le monde d'un seul coup, donc tu es obligé de procéder étape par étape. C'est juste ça. Non, mais c'est...
Alain Damasio, on vous remercie plus que vivement pour votre présence aujourd'hui. Michel Guéraud, un mot sur le site du Ravi ?
Eh ben, il faut y aller parce qu'il est tout neuf, tout beau. Hein. C'est la techno, c'est la technologie aussi, mais c'est si utile parfois.
Allez, on se retrouve au mois prochain. Bye.